Small is Beautiful sur la grenouille, Small is Beautiful, des spectacles, parcours et performances en espace public qui ont débuté le 5 octobre dernier et qui se termineront demain, 16 octobre, à Aubagne. Vous avez suivi la traversée sur la grenouille puisque depuis le 7 octobre jusqu'à ce soir, on a suivi Small is Beautiful à Martigues, à Marseille et à Aubagne. On a reçu pas mal d'artistes qui étaient programmés dans cette manifestation. Ce soir, on va parler d'Europe, puisqu'on a des représentants européens qui sont venus à l'occasion de cette 5e édition de Small is Beautiful pour la clôture. Avec nous, Ariane Biou, qui est la coordinatrice du réseau In Situ, qui est un réseau européen de diffusion des arts de la rue. Également avec nous, Christian Potiron, qui est un directeur adjoint de Košice 2013, donc l'autre capitale européenne de la culture en 2013. Et il n'est pas venu tout seul, il y a toute une délégation de Slovaques avec lui. Hugo Berg, c'est lui, chef de projet à Theater Op der Markt, c'est dans les Flandres, en Belgique. Et Pedro Garcia est le directeur artistique de Chalon dans la rue, l'un des deux festivals des arts de la rue en France, également donc directeur de l'abattoir Centre National des Arts de la Rue. Donc avec ces quatre intervenants, nous allons évoquer la question de la création artistique pour l'espace public en Europe. Mais on écoutera également, comme à notre habitude, quelques chroniques réalisées par Laurent Petit de l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, Nicolas Mémin, urbaniste gonzo, montreur d'ours en béton, les beaux pâleurs en fin d'émission. Et en début d'émission, dans quelques minutes, les chroniques sonores d'Espace Sonore, qui était à la gare Saint-Charles pour un pépin pour deux, une balade en parapluie avec du son à travers la gare. Mais pour commencer, il faut vous dire que ces émissions, la plupart, ont été enregistrées dans un bus qu'on a suivi de Martigues à Marseille à Aubagne, un bus aquarium tout aérographé de poissons et tout ça, et il appartient à Alexandre Tabakov, donc on voulait lui rendre hommage. Alors merci pour nous avoir accueillis dans votre bus, Alexandre Tabakov. On voulait lui tendre le micro aussi pour qu'il nous dise comment il était devenu propriétaire d'un bus de la RATM et à quoi que fait ce bus le restant de l'année quand il n'y a pas Small is Beautiful.
Bonsoir, voilà. Donc le bus, il s'appelle Transit et il a surtout une histoire. Donc c'était un ex-bus de la RATM avec lequel j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années parce que je suis plasticien à l'origine et donc j'animais des ateliers dans les quartiers nord de Marseille, d'art plastique et de peinture et notamment d'aérographie. Et à l'époque, avec l'association Mamega, on avait monté un projet de rapprochement un petit peu entre la RATM et les jeunes et s'approprier un peu le bus du quartier, qui était la ligne 33, passée par la busserine Saint-Jérôme. Voilà, donc ce bus a fait après bon et loyaux services pendant 15 ans de sa ligne, et il est parti à la réforme en 2007. Et voilà, de là est née l'idée de le récupérer, donc j'ai mis le souhait à la RATM qui me l'a offert gracieusement. Voilà, après avoir ce beau cadeau, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, on va continuer à le faire vivre, une histoire de bus et une histoire de transport, mais d'une manière différente. Donc, en dehors, effectivement, de la collaboration qu'on a cette semaine avec Small is Beautiful et Lieux Publics, dans le studio radio et l'installation qu'il y a autour, moi, j'organise, j'essaye du moins, ça fait déjà plusieurs voyages que je fais des balades urbaines dans Marseille. Et voilà, à chaque fois, j'invite un artiste, un écrivain, des musiciens. Et donc, l'idée, c'est de donner rendez-vous au public à une station de métro. Et ils partent pour une balade inconnue pendant 2h30. Et il y a une aventure à vivre à l'intérieur avec quelqu'un et à l'extérieur, puisque la ville défile. Et voilà, c'est un petit peu la relation de ces trois choses, la ville, le public et l'artiste. Voilà, donc son histoire continue et la semaine prochaine, il participe à un nouveau festival qui est le cinéma Ciné Horizontes, le cinéma du film espagnol, et il va y avoir des balades nocturnes avec des réalisateurs espagnols et tout ça durant la semaine prochaine. Voilà, un grand merci. Un grand merci et ça m'a fait plaisir de voir le bus d'un coup devenir studio de radio. Voilà, donc c'est un peu tout ça, ce bus est une boîte. C'est une armoire et on tire un tiroir, il y a une histoire à vivre à chaque fois.
Et quand vous en servez pas, vous le garez en boîte chez vous ?
Non, ouais, sinon la ville serait pas... Je mets un ticket de parc mètre pour 15 mètres, mais ça le fait pas. Non, il est stationné à la Cité des Arts de la Rue, puisque je travaille à la Cité des Arts de la Rue. Je fais partie de la compagnie Générique Vapeur. Voilà, et donc la cité accueille mon bus, voilà, pour qu'il puisse rester tranquillement.
Merci beaucoup Alexandre donc, pour cet accueil et pour ces quelques mots sur ce bus Transit. On va écouter la première chronique sonore, donc signée Espace Sonore, et aujourd'hui ça s'appelle Renouveau.
Par là ?
Ouais.
Parce que vous dites, là, il y avait des énormes bâtiments. Tout ça, c'était des énormes bâtiments là, qui sont partis, là, qu'on a démolis.
Démolition.
Non, c'était des bâtiments longs comme ça,
de construction.
Comme ça, oui, là. Il y en avait plein ici qu'ils ont démolis.
Réhabilitation.
Le centre commercial.
Démolition.
Ah, oui, de la construction,
voirie autour.
Là, ont... Ça a tout été, les gens, ouais. Quand même, souffert parce que...
Accompagnement social.
Ils ont tout abattu, le centre commercial. Donc...
Dans le cadre du projet, donc.
Après, comme... Plus ou moins des personnages.
Voilà, un peu retardés.
Ils ne
savaient plus où aller faire les courses.
Ça veut dire qu'ils remontent
beaucoup plus haut.
Voilà.
Alors que là,
en transition.
La proximité. Hein.
Respecter le choix de quartier qui avait été émis par des gens.
Ils vont recréer
vraiment tout le gros du programme.
Ça va être autrement. Ça va être des pavillons comme un peu plus haut. Ça va être différent.
Ils font beaucoup
des pavillons qui seront en statut libre.
Là, c'est tout de construire. Parce qu'il y avait de grands bâtiments, mais c'est tout.
Au logement.
Tout, ça va tout se construire.
Habitat plus moderne.
Il va y avoir après de petites maisons très bas.
Plus respectueux d'un certain nombre de besoins qu'ont les gens.
Avec de terrain et de garage.
Un espace de qualité.
Tout simplement.
Meilleures normes d'habitat.
Bon, faire autre chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire.
Plus locatif. Classique, enfin, au prix de marché.
Ah oui, là c'est tout changé ici. Hein. Ouais. C'est tout des travaux partout. Hein.
C'est énorme.
Bourges, c'est.
Aussi,
ah, il est fermé celui-là maintenant.
Et tout, oui.
Ah, bon. Bah, ça veut dire qu'il va partir alors.
Un espace qui est en attente.
Maintenant c'est tout fermé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire à tout ça.
Nettoyer le foncier après des molles.
Ah, c'est un bon état, mais je ne sais pas. C'est pas
des rumeurs, des bruits, etc. Combien de fois moi j'ai pu entendre. Ah oh ben ils ont plus d'argent, ça va s'arrêter. Alors qu'effectivement, les raisons pour lesquelles ça a pu s'arrêter par moment, c'était pas ça. Il y a des temps de latence, il y a des choses comme ça, donc ça c'est... Ça fait qu'on peut avoir l'impression qu'il y a des chantiers qui s'arrêtent.
Small is Beautiful sur la grenouille, donc on va parler de création artistique pour l'espace public en Europe ce soir en compagnie de nos quatre invités. Alors Christian Potiron, donc, je rappelle, vous êtes directeur adjoint de Cosicché 2013, vous êtes venu en délégation là, voir la création de l'opus 3 de Step by Step de la Horde et de Napéron, c'est ça ?
Tout à fait, donc la troisième étape de travail de ce duo franco-slovaque. Et pour nous, l'occasion avec nos deux nouveaux directeurs de venir voir nos partenaires, future capitale européenne de la culture comme nous. Donc voilà, premier résultat dans le cadre de Small is Beautiful, d'une coopération entre Košice et Marseille.
Alors, on l'entend, vous êtes français. Comment vous êtes devenu directeur adjoint de Košice 2013 ?
Chef de projet, plus qu'au directeur adjoint, mais bon, ça fait déjà 10 ans, ça fera en février 10 ans que j'habite en Slovaquie, donc ça fait déjà un petit moment que je suis en Europe centrale. Résultat de la mobilité européenne financée par la Commission, et depuis 3 ans dans l'équipe qui prépare la capitale européenne de la culture, à Košice, et c'était la bonne occasion de faire le pont entre mon pays d'origine et mon pays d'adoption, donc je le fais avec joie, et voilà, un vrai plaisir.
Donc des ponts artistiques, il en existe aussi donc, avec ce projet de la Horde et de la compagnie Napéron de Košice. Ils sont nombreux les projets comme ça, franco-slovaques, bon là, il se trouve que la Horde, ils sont de Lyon, par exemple Marseillo-Košicéen.
Ça se travaille, ça prend du temps. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce projet, c'est que c'est, la Horde était déjà présente à Košice avant la sélection de Košice comme capitale européenne de la culture. Donc du coup, c'est un travail de fond, c'est une vraie expérience de la Slovaquie. Je pense qu'ils comprennent bien ce qui se joue en Slovaquie. Donc ça leur permet, d'un côté comme de l'autre, de bien se connaître et de pouvoir travailler ensemble dans une osmose. Alors c'est amusant parce que c'est une sorte de résidence de création qui se fait par étapes, d'un mois de résidence à chaque fois, et ils se retrouvent avec toujours un énorme plaisir, et on sent que bah voilà, à chaque fois c'est un mois de travail intense, un résultat qui est présenté à la fin à la place de 3-4 mois de travail en continu pour présenter une pièce à la fin. C'est voilà, c'est un spectacle qui se construit par étapes et une histoire, l'histoire de l'artiste en exil qui finalement on raconte son périple ou les différents problèmes qui sont liés à ce thème-là par étapes, par pas. Donc on en est au troisième, en attendant les autres.
On sait que Marseille-Provence 2013, il va y avoir une place importante faite dans cette année capitale aux arts de la rue. Est-ce que c'est le cas aussi à Košice ?
Oui, oui, c'est d'ailleurs pour ça que Košice 2013 s'est engagé comme co-organisateur, comme partenaire de lieux publics dans le réseau in situ. Et c'était une occasion magnifique de travailler ensemble à développer des coproductions au niveau européen et notamment entre les deux villes. Et le thème de l'espace public était un thème important dans le cadre de la préparation de notre capitale européenne de la culture, en sachant qu'en Slovaquie, l'espace public a d'autres dimensions, d'autres limites que l'espace public en France. Et que,
c'est-à-dire ?
Bah, y a vraiment un travail de réappropriation à faire. C'était l'espace de la propagande, l'espace de l'outil politique. Et c'est vrai que depuis la révolution de velours, tout le monde est rentré chez soi. Et on est plus à la maison devant sa télé que dans l'espace public. Donc du coup, y a peut-être moins l'habitude d'utiliser l'espace public comme lieu de création et comme lieu d'interaction, même socialement. C'est-à-dire pas simplement artistiquement, mais même socialement. On va plutôt se rencontrer chez soi ou au bar du coin que dans la rue. Et voilà, pas beaucoup de manifestations en espace public, même politique de manière générale. Donc voilà, c'est à réapproprier. Et finalement, l'artiste permet cette réappropriation poétique et qui amène potentiellement d'autres réutilisations ensuite.
C'est vrai que la Slovaquie, c'est le pays qui récemment a dit non au fonds de soutien européen, de soutien européen à la Grèce. Quelle est la perception qu'ont les Slovaques de l'Europe, selon vous ?
Selon moi. C'est une bonne question, assez large. ils l'ont voté, hein, en fait, le lendemain.
Ça y est. Ah oui,
ils l'ont voté le lendemain.
Évidemment, comme c'était une mauvaise réponse, on les a fait revoter.
Exactement.
Ils ont eu la...
C'est assez ambivalent en fait comme relation. Bien sûr, c'est un amour comme un peu partout. C'est faire partie du club des riches et des bons, et en même temps, on vient juste d'acquérir notre droit à une identité nationale, à avoir son propre territoire, donc on n'a pas envie de le redonner si rapidement. Et j'ai entendu des commentaires de certains personnes que je connais qui ont eu tendance à me choquer, comparant finalement Bruxelles à Moscou, en disant pourquoi ce serait eux qui décident, qui centralisent les pouvoirs et qui nous disent ce qu'on doit faire chez nous. Bon voilà, il y a apprendre à faire ensemble, c'est aussi un processus d'apprentissage, de se faire confiance. La notion de solidarité, c'est quelque chose de sensible. Et puis après, c'est vrai qu'il y a cette relation. Pays important, plus petit pays dans l'Union européenne, quelle place dans les processus de décision pour un pays de 5-6 millions d'habitants comme la Slovaquie, avec d'autres pays comme la France et l'Allemagne qui ont un pouvoir de décision et d'influence qui est quand même assez différent. Donc c'est la peur d'être dilué dans un ensemble plus grand où on perd un peu de sa place et de son pouvoir de s'exprimer.
Je pense que vous avez été au courant, que vous êtes au courant des difficultés que rencontre la capitale européenne à se construire à Marseille, notamment des difficultés politiques.
Ah bon ?
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez à Košice, s'il y en a, hein ?
Il y en a. par rapport à Marseille, Provence 2013, vu de l'extérieur, des difficultés de fonctionnement, de création, il y en a toujours. En même temps, vu de l'extérieur, c'est quelque chose qui a du sens. Les choses m'ont l'air de fonctionner entre elles en termes de thématiques. Il y a une équipe qui fonctionne. Des frictions, il y en a toujours. Définir un projet comme celui-là, les projets de capitale européenne de la culture, tout d'abord, c'est toujours une question de compromis entre le politique et le culturel. Et en Slovaquie, par exemple, c'est une occasion unique pour le politique de s'intéresser au culturel. Et donc, du coup, bah, oui, il y a des moments, il y a des clashs. On vient de changer toute l'équipe de direction. Donc, un an et demi du début de la capitale, ça a forcément des influences. Et en même temps, soit on l'accepte, soit on l'accepte pas, et on lâche. Mais en même temps, c'est quand même une occasion, une réelle occasion de faire évoluer les choses, d'amener d'autres types de contenus, de confronter le public à d'autres types d'œuvres, à poser de la question européenne dans la création artistique, ce qui est généralement aussi pas toujours posé. Et en Europe centrale, il y a cette question aussi de cette instabilité politique, un changement très, très, très rapide d'orientation. Aussi, les autorités publiques sont aussi dans des phases d'apprentissage par rapport aux fonds européens, par rapport à comment organiser une politique culturelle long terme. Il n'y a pas de politique culturelle sur les arts de la rue en Slovaquie. Les arts de la rue n'existent pas. Il n'y a pas de personne au ministère de la Culture en charge des arts de la rue, etc. etc. Donc, il y a un processus de construction qui est en cours. Et c'est vrai qu'un projet de capitale européenne de la culture, c'est quand même une occasion unique de poser les jalons d'une vision de ce que pourrait être la culture en Slovaquie, qui est forcément pas simplement du copier-coller de ce qui se fait dans d'autres pays, mais des rencontres comme des rencontres avec un centre national des arts de la rue, comme le public, c'est quand même une source d'apprentissage sur des manières de faire, sur un type de structuration qui existe. Donc si ces modèles-là, à un moment, peuvent influencer en positif des modèles qui sont en train de se créer en Slovaquie ou des cadres, ça me semble intéressant. Il y avait la visite de notre maire il n'y a pas très longtemps. J'espère que sa visite à la Cité des Arts de la Rue il fera penser qu'il y a peut-être des choses à faire dans ce domaine-là aussi en Slovaquie.
À Marseille, la capitale européenne accompagne une sorte de projet de métropole marseillaise, puisque le territoire est beaucoup plus élargi et Marseille est une ville en chantier aussi, donc accompagne, enfin, se situe au même moment que de profondes transformations urbaines. C'est le cas aussi à Košice ou pas ?
Oui, c'est d'abord Košice, c'est une ville qui est aussi un tournant dans son développement. Ancienne ville sidérurgique aussi en partie, avec un centre-ville austro-hongrois ou hongrois, puisque ça a été une ville hongroise pendant des centaines d'années. Donc il y a vraiment un travail identitaire, il y a un travail industriel, puisque toute la partie industrielle, métallurgique, minière, bien sûr, est en transformation, a amené d'autres types d'industries, notamment l'industrie créative. Donc il y a toute une partie du programme de Košice 2013 qui s'intéresse à comment développer l'économie créative en Slovaquie, designer, architecte, etc. Sur les questions de territoire, il n'y a pas d'intercommunalité, par exemple, en Slovaquie. Et là, c'est vrai que la ville de Košice a gagné au dernier tour face à son voisin de 50 km de là, qui est la ville de Prešov, et du coup, a été fortement conseillé par la commission aussi de développer des choses ensemble. Et du coup, c'est peut-être aussi penser les politiques locales d'une manière un peu différente. Et ces deux villes essayent, et ces deux régions, de penser des projets ensemble. Et c'est pas toujours simple, mais c'est aussi très intéressant. Et Marseille-Provence, et quand je vois la taille du territoire, le nombre de villes qui sont impliquées, c'est un pari pas simple. Et enfin, voilà, c'est beau qu'il y ait cette envie de fédérer, de travailler ensemble autour d'un projet artistique, malgré les différences.
On va faire une nouvelle pause dans cette émission avec une chronique signée Laurent Petit de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. Donc depuis vendredi dernier, Laurent Petit nous délivre son diagnostic sur le Grand Marseille et le Grand Pas Marseille, les villes qui sont autour. Dernière étape aujourd'hui, donc dans le cadre de ce magazine.
bonjour à tous. Donc pour essayer, dans le cadre de cette psychanalyse urbaine du Grand Marseille, de fédérer les villes avoisinantes de Marseille avec Marseille, ce serait peut-être intéressant de revenir sur le véritable traumatisme qu'a été pour la région la fameuse peste de 1720, une peste qui se déclenche à cause d'une malversation de l'échevin de Marseille qui accepte qu'un bateau venu de Chypre accoste, tout en sachant que ce bateau était atteint de la peste. Et c'était tout ça parce que le chemin de Marseille possédait des intérêts dans la cargaison que contenait ce bateau, puisqu'il contenait des tissus qui allaient être vendus plus tard à la foire de Beaucaire. Donc, malversation, le bateau débarque et les puces envahissent la ville. La peste prend une ampleur sans précédent à Marseille, qui perd plus d'un tiers de sa population, mais aussi dans les villes avoisinantes qui n'arriveront pas à se protéger du fléau. Et chaque ville aux alentours perd soit la moitié, soit un tiers de sa population à cause donc d'une malversation venue de Marseille. Alors, il nous a paru intéressant en guise de traitement pour essayer de refédérer toutes les villes autour de Marseille et bien de faire revivre ce trauma, mais de manière ludique et festive dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Le scénario pourrait être facile à imaginer. On peut penser que, par exemple, le maire de Marseille pourrait être, pourquoi pas, interprété par Bernard Tapie, parce qu'il possède une solide expérience théâtrale, et bien Bernard Tapie accepterait d'accueillir une cargaison venue de Naples et qui serait un mélange de dioxine d'amiante et de sulfure d'hydrogène. Il transporterait très discrètement cette cargaison dans l'incinérateur géant de Fos-sur-Mer. Les fumées dégagées par la combustion de la cargaison maudite serait traversée par des moustiques venus de Port-Saint-Louis qui deviendraient géants et qui s'abattraient sur la ville de Marseille pour déclencher une terrible épidémie de peste. Les villes avoisinantes essaieraient d'empêcher les Marseillais d'approcher jusqu'au jour où peut-être la bonne mère apparaîtrait à deux aubaniers qui décideraient d'aller sauver les Marseillais. Alors, pourquoi pas en les convertissant au tri sélectif. Marseille, devant la guérison réalisée par toutes les villes avoisinantes qui se transformeraient en pénitent blanc avec des trois rouges sur le dos, par exemple, eh bien, accepterait que Aubagne devienne la capitale administrative du Grand Marseille et accepterait d'accueillir un incinérateur géant sur le Frioul derrière la colline pour bien montrer sa bonne volonté. Ce qui ferait que toutes les villes seraient réconciliées et que le projet du Grand Marseille pourrait naître, même s'il s'appellerait le Grand Aubagne ou le Grand Martigues.
Laurent Petit, ça marche à tous les coups, ces idées enthousiasmantes, plus de rire, tous ceux qui l'entendent. Alors, Ariane Biou, vous êtes coordinatrice du réseau européen de diffusion des arts de la rue in situ. Donc, quel est votre regard, vous, aujourd'hui, sur les arts de la rue en Europe ?
Alors justement, on parle plus que des arts de la rue, maintenant on parle de l'art en espace public. C'est ce que fait déjà lieu public, ici à Marseille et en France et en Europe, et c'est là-dessus que le réseau travaille, le réseau institut.
Enfin, on cherche, parce qu'on appelle aussi l'art de ville, la création en espace libre, tout ça, on cherche un lexique là-dessus.
Oui, en espace non conventionnel, voilà, ça se crée petit à petit, et il faudrait faire un glossaire. Le réseau institut, lui, se concentre sur l'art en espace public au sens large, c'est-à-dire qu'il est composé de 19 partenaires qui sont originaires de 14 pays. Et donc, ces 19 partenaires, c'est 19 festivals dans des contextes extrêmement différents. Et donc, le mot espace public lie l'ensemble des festivals. Voilà, on retrouve un sens commun entre nous sous cette définition. La définition art de la rue est peut-être un peu dépassée pour ce qu'on propose maintenant en termes de création aujourd'hui.
D'accord. Et donc, quel regard vous avez sur la création artistique en espace public aujourd'hui en Europe ?
Elle est forcément très variée. Le regard que nous, on en a dépend beaucoup de nos partenaires, justement, parce que c'est eux qui la composent. Et c'est une vraie mosaïque. Puisque le nouveau projet européen que l'on porte à présent se définit aussi avec des visions de chaque partenaire et de festival très variées, beaucoup de projets implicatifs, surtout quand on parle des pays de l'Europe centrale. Parce que justement, il y a un travail de redécouverte de l'espace public. Donc, mais c'est des formes qui sont aussi très présentes chez nous.
Implicatif, c'est pareil que participatif ou...
Les deux sont justes, avec des nuances, bien sûr. C'est aussi un travail sur le territoire, donc qui implique aussi le territoire, les personnes, mais aussi une action... qui peut être sur la ville, bien sûr, donc des projets très urbains, mais aussi sur le paysage.
Pedro Garcia, vous êtes directeur artistique de Chalon dans la rue. Vous recevez beaucoup de créations européennes dans ce festival transnational, je crois qu'il s'appelle.
Oui, c'est ça, transnational. Donc, à chaque édition, il y a deux, trois ou quatre projets qui sont des projets qui nous viennent en général d'un pays européen, mais pas que. C'est important de laisser de la place à des projets qui viennent d'ailleurs et puis aussi le public, les Chalonnais, puissent voir aussi les préoccupations d'autres pays. Parce que c'est vrai que les propositions sont extrêmement variées et on s'aperçoit que, évidemment, la culture de chaque pays... Ça percole, ça transpire quoi, dans les préoccupations des uns et des autres. Et à la fois, c'est intéressant pour le public de voir toutes ces choses-là. Tout à l'heure, on parlait de spectacles qui pouvaient intégrer, je dirais, deux équipes sur deux pays étrangers. C'est vrai que sur deux pays différents, c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus rare. Parce que c'est plus délicat. Je pense que c'est intéressant d'encourager cette démarche-là. Mais c'est vrai que c'est délicat. Il faut du temps pour que ces projets naissent. Il faut ensuite du temps pour que les compagnies et les individus qui font ces compagnies puissent se rencontrer, essayer d'élaborer un langage commun, à la fois soit chacune dans leurs préoccupations. Donc c'est une grande aventure, c'est une aventure au long cours. Je pense que c'est l'aventure, je dirais pas la plus intéressante, mais en tout cas la plus difficile, et par conséquent, quand elle est réussie, vraisemblablement la plus intéressante. Je pense qu'un réseau comme InSitu doit vraiment fouiller dans ce sens-là. À la fois, on a déjà eu des expériences et je dois dire que c'est pas toujours formidable, simplement parce que on sait bien, par exemple en Europe, c'est très très simple, mais il y a beaucoup de langues. Et donc, travailler autour donc déjà d'un langage commun sur le plan artistique à plusieurs compagnies avec des individus qui se comprennent pas toujours, ou en tout cas la justesse des vocables sont pas exactement les mêmes pour chacun, ça demande du temps. Mais je pense que il faut inventer, il y a de l'invention. En devenir, c'est-à-dire que il y a encore des façons à découvrir, des façons de travailler, des façons de s'organiser autour d'envies de création. Je pense qu'il y a encore une large place pour des aventures comme ça. Alors c'est vrai que tous les artistes sont pas n'y arrivent pas. Parce qu'il faut avoir, je pense, une vraie singularité en termes d'univers esthétique. Donc il nous reste, nous, à trouver qui, et puis des artistes, à susciter des envies.
Il semble, il y a toutes ces différences, mais il y a quand même, il peut y avoir des convergences, par exemple, là, avec La Horde 2 et Napéron, c'est un spectacle autour du thème de l'exil, quoi, et ce thème de l'exil, des migrations, on le sent pas mal à l'œuvre aujourd'hui dans les arts de la rue. Je crois qu'au dernier festival de Chalon dans la rue, qui fêtait ses 25 ans cette année, ce thème des migrations était particulièrement présent.
Oui, absolument. Bon, il y avait trois projets donc autour des migrations, dont un qui devait voir le jour avec une équipe, justement une équipe française et une équipe mexicaine, c'est-à-dire Carabos pour la France et la Línea de Sombra pour le Mexique. Et donc, bon, c'est un projet qui a été remis pour des raisons toutes simples. Hein, c'est l'annulation de la saison du Mexique en France. Et donc, on reprend l'aventure là. D'ailleurs, il y a une résidence qui va se dérouler dans la première quinzaine du mois de novembre parce que la compagnie mexicaine est en tournée en Espagne et en France et donc va rester 15 jours de plus pour travailler avec Carabos. Alors, moi qui ai vécu les 5 premiers jours où les deux compagnies se sont rencontrées et qui ensuite... les ai vus au travail pendant une quinzaine de jours. Enfin, je ne les ai pas vus au travail, mais disons que j'ai visité un petit peu à deux reprises pour voir un petit peu où ça en était. Bah, je dois dire que là, en tout cas, il y a des choses qui fonctionnent assez bien. Mais c'est vrai que, par exemple, la barrière de la langue, elle est assez atténuée parce que ça parle pas mal le français, ça parle pas mal l'espagnol dans les deux compagnies. Et puis, c'est vrai qu'il y a un thème, puisque vous faisiez allusion à ce thème-là, il y a un thème... donc fort, qui est partagé. Et c'est vrai qu'autour de cela, il y a des envies qui se sont créées. Mais à la fois, je dirais qu'il y a un élément qui est important, c'est que les deux directeurs artistiques des deux compagnies sont des gens, je dirais, particulièrement ouverts à être, je dirais... j'aime bien le terme de centre dévoré. C'est-à-dire que sur les esthétiques, hein, c'est-à-dire que l'un et l'autre veulent prendre de l'autre compagnie, du savoir-faire de l'autre. Et il y a comme ça des moments joyeux où chacun dévore ce que l'autre sait faire et vice-versa avec un appétit et surtout de la gourmandise. Et les choses se passent assez bien parce qu'il y a des savoir-faire qui sont en train de s'échanger. Donc je suis assez... positif, enfin je suis assez rassuré, y compris de cette envie, de voir cette envie au travail et des gens qui prennent le temps d'échanger vraiment, parce que j'ai vécu il y a quelques années une autre aventure avec deux autres compagnies et c'est vrai que la barrière de la langue était tellement forte et des envies qui étaient moins affirmées faisaient que chaque compagnie faisait un pas vers l'autre, mais un petit pas. C'était vraiment l'aventure des petits pas et c'était surtout parce que l'une et l'autre des compagnies étaient assez peu rassurées sur ce qu'elle avait envie de faire ou la façon dont elle voulait le faire, alors que là dans les deux compagnies en question il y a ce thème donc de l'émigration et donc de la disparition, puisqu'il s'agit de la disparition d'individus, non pas des individus qui meurent le long de cette frontière entre le Mexique et les États-Unis, mais des individus qui disparaissent, c'est-à-dire qui sont comptabilisés nulle part. Et d'ailleurs, il y a même des chercheurs qui recherchent des restes d'individus pour essayer de leur donner une identité. Donc autour de ça, le projet s'est renforcé parce qu'il y a vraiment une envie très humaniste, y compris très politique, de parler de ça. Donc il y a de la force et les choses ont très bien avancé. C'est-à-dire que pendant ces 4 mois où en fait le projet était là, posé, en devenir, donc la compagnie mexicaine était en tournée en Europe et revenue sur Chalon dans la rue pendant le festival. Et puis les choses reprennent telles qu'elles devaient reprendre et on est très confiant. On a d'autres partenaires et donc on est très confiant sur cette aventure-là.
Hugo Berks pour le théâtre Op der Markt. Donc quel est votre regard, vous, sur cette création artistique pour l'espace public en Europe?
Je vais essayer en français parce que normalement je parle le néerlandais, mais je vais essayer.
C'est gentil, merci. Parce que moi et le néerlandais, c'est difficile.
le plus intéressant pour nous est la rencontre. On a parlé de collaboration des artistes de différents pays, mais pour nous, le plus intéressant est la rencontre des artistes. Le réseau nous donne la possibilité d'avoir une rencontre très large entre tous les pays, mais surtout pour les artistes, c'est intéressant. Et pour nous, comme festival, c'est intéressant de voir des propositions de tous les différents pays, avec toutes leurs idées très spécifiques, par exemple, concernant des frontières, hein. L'idée des frontières est interprétée par des artistes différents et interpréter différents. Par exemple, Cosicier, il y a peut-être une autre interprétation d'une frontière que chez nous, parce que chez nous, les frontières n'existent presque pas. Mais il y a des frontières plus petites dans les villes, entre les gens aussi. Hein, pas des frontières d'un pays, mais d'autres frontières. Ici, dans Marseille, je vois une ville avec beaucoup de culture. Hein, chez nous, c'est beaucoup moins fort comme ça. Hein. Dans ma ville, où nous avons un festival, il n'y a que les habitants de la ville. Hein. Il n'y a pas des gens d'Algérie, il n'y a pas presque pas des gens d'Afrique. C'est complètement différent. Et c'est intéressant d'avoir dans un réseau tous les différentes
sensibilités,
des différentes vues sur des différents thèmes. Hein. Aussi sur le thème d'Europe, par exemple. Hein. C'est tout à fait différent pour beaucoup de membres du réseau. Et ça, c'est intéressant pour nous, pour les rencontrer.
Theater op der Markt, vous pouvez nous dire deux mots sur ce que c'est. C'est à Nierpelt, donc en Flandre, et comment ça fonctionne?
Oui, notre festival est biannuel. Un an, les ans pairs, on a un festival dans notre capitale, c'est Hasselt, dans la province de Limbourg, dans le nord de Belgique. Et c'est un festival avec l'art de l'espace public, disons. Les ans impairs, un festival à Nierpelt avec du cirque. À côté de ça, on a un centre de production avec les résidences pour coproduire des projets cirque et des projets des arts de la rue ou des arts dans l'espace public. À côté de ça, on a aussi un centre de production, deux centres dans le même bâtiment, mais qui s'occupent des autres arts vivants, danse, théâtre, tout ça.
On fait une nouvelle pause dans cette émission. On parle de création artistique et de ville et d'Europe à l'occasion de Small is Beautiful, donc, qui termine sa trajectoire à Aubagne ce week-end. Une pause musicale et on retrouvera ensuite la chronique de Nicolas Mémin.
Noyé dans la ville, j'entrevois une teinte qui colore nos grottes bétonnées d'une étrange toison d'or. Alors, j'aimerais voir les épis de blé repousser sur les Champs-Élysées pour rire avec Belle Deschamps
avant de la violer.
Malgré une brise qui défie la moiteur, j'ai des sueurs autant qu'un beauf du téléachat sur le body trainer. En travelling perpétuel, mon œil filme le panorama. Une vieille dame parle à un banc qui ne lui répondra pas. J'aimerais être le néant, ne plus penser comme si j'étais le cerveau de Samina Seri croisé à suite, m'a-t-il saigné. Les graffitis dansent sur les murs quand la nuit se dessine et une abeille butine un jus de litchi dans une canette chin-chin. D'un coup, il me pousse des plumes à la place des doigts et d'un battement de cils, je m'évapore loin de ça. Apaisé, comme si j'étais entre deux seins bien roulés, je me sens bien comme dans un cocon fait de PQ alvéolé.
J'ai décidé d'éteindre la télévision cet après-midi pour m'aventurer dans les rues moites puisque c'est l'été. Les gens prennent leur temps, mais leurs gestes sont figés. Les touristes se déplacent en colonies de termites. Les monolithes sortis du sol tentent d'atteindre un ciel peint. Et c'est lorsque je regarde en l'air que j'ai le vertige. Des autos grises circulent dans ce monopoly, assis sur un terre-plein. Je contemple ma rue, je respire, je transpire et retranscris mes rêves dans les histoires que je me raconte pour que le temps passe plus vite. Et j'en profite pour gâter. À chaque fois, mon pain au chocolat a une drôle d'allure rabougrie. Il y a du gras sur mon cahier, et toutes les feuilles sont collées. Et je suis infiniment petit, personne ne m'entend si je crie. Je saute de pavé, en évitant les gouttes de pluie. Il pleut mais il fait chaud, sous ma capuche et l'air d'un esquimau. Je n'ai pas pris l'habitude de revêtir mes vêtements estivaux. Nez à nez avec les jambes des gens, je marche lentement. Pour arriver au parc, je ne pensais pas que je mettrais tant de temps. J'enjambe la grille et je suis sur mon territoire. Ma ville à moi, c'est mon square. C'est pas pour de vrai, mais j'ai l'air d'y croire, dur comme fer. Le sable est mouillé, les articulations de mes robots transformables sont rouillées. C'est juste l'enfer, mais c'est pas non plus la fin du monde. J'ai ma panoplie de super-héros et mon parapluie rangé dans mon cartable. Un tas de sable, une jeunesse perdue dans une chrysalide. À l'abri des responsabilités pour ma sécurité. À l'abri du monde extérieur, à l'abri des intempéries, à l'abri de la vie. J'ai tout pour être heureux, mais pas stable.
qu'un jeune bipède, enfermé dans un petit parallélépipède, d'où je m'extrais quelquefois afin d'évoluer à l'intérieur de vastes artères remplies de gaz incolores mais nocifs pour mes alvéoles pulmonaires. Sur ma rétine s'incrustent des formes très diverses. Je me protège en cas d'averse, sentant de l'extension de mon épine dorsale un revêtement composé de matière plastique absorbé par l'écoute de ma bande magnétique. J'avance, je marche tout seul dans la vie. Les rayons du soleil en me transperçant projettent sur le bitume l'empreinte de mon âme qu'une nuit de semelle vient piétiner. C'est pour cela que je n'avance qu'à la lumière artificielle, même si je sais qu'elle n'attire vers elle que des créatures aux blessures mortelles. Pour les femelles de mon espèce, je n'existe pas. Moyennant l'échange de quelques billets, certaines acceptent de toucher ma sensibilité, mais sans succès. Une lame rétractable me tient à l'abri des autres bipèdes, comme les chats qui se tiennent sur leurs pattes arrière. Je sais qu'ils voudraient altérer ma vision d'un coup de griffe afin que je cesse de raconter aux gens ce que je vois la nuit. Une à une, j'ai gravi les marches de cet immeuble afin de contempler le complexe architectural dans sa globalité. Je n'étais qu'un jeune bipède, égaré parmi des milliers d'autres jeunes bipèdes. Je regarde le soleil, j'ai ma vie dans ma main. Mes pieds quittent le sol, je m'envole.
Je lève la tête à dire... Nicolas Mémin est un montreur d'ours en béton, un urbaniste gonzo. Il nous propose une promenade par jour dans le cadre de cette émission. Il nous amène ce soir sur les hauts du paradis.
Alors vous êtes à Marseille, vous savez pas quoi faire, vous en avez marre de Notre-Dame de la Garde, du Vallon des Eaux, Épatin et Couffin. Je vous invite à aller voir le quartier de l'intelligentsia et de l'aristocratie marseillaise, les Hauts de Paradis. Les Hauts de Paradis. Les Hauts de Paradis, c'est la partie finale de la rue Paradis, qui commence à la Bourse mais qui fait, je sais plus, 2 ou 3 km de long jusqu'au deuxième Prado à Saint-Gigné. Et dans la partie de Saint-Gigné, à la fin, c'est là où vous avez les plus beaux immeubles de Marseille, fin 19e, début 20e. Vous en avez très beaux aussi jusque dans les années 50. Et cette figure de rue là, qui est une rue assez large, assez belle, avec des immeubles qui montent à 6-7 étages, où vous avez parmi les plus belles écritures de ce qu'on appelle alors l'éclectisme historiciste finissant de la fin du 19e, donc ça fait des espèces de faux palais renaissance que vous avez plutôt près de la place Perrier. Vous avez alors ce style 1900, le moderne style avec le bow window, c'est-à-dire la façade qui s'arrondit, qui dépasse un petit peu sur la rue, l'apparition des premiers toits terrasses, ça finit un peu sec, des espèces de figures à la mansarde, mais au lieu d'être capoté d'ardoise, c'est capoté de tuiles. Donc les plus beaux immeubles belle époque de Marseille sont là. Pour les années 20-30, donc l'apparition d'un style un petit peu art déco, vous avez des immeubles qui sont comparables aux immeubles de Ginsberg à Paris, de la série blanche. Alors c'est à nouveau l'écriture en bow window, mais beaucoup plus asséchée, façade blanche, lisse, le bow window devient comme tronçonné d'une fenêtre bandeau noir, et puis à côté de la porte d'entrée, au rez-de-chaussée, une petite fenêtre ronde va amener la touche d'écriture paquebot qui tout de suite va nous faire voyager. Donc vous avez à Marseille une rue qui est aussi belle que les rues de Barcelone ou les très belles rues de Paris. Elle n'est pas connue comme telle, je ne l'ai jamais vue décrite dans les guides. C'est les hauts de la rue Paradis. Quand on s'intéresse à sa construction, ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait entre nous, pour nous, loin des Parisiens. Les instigateurs de cette rue ont laissé leur nom, c'est les célèbres messieurs Fiol, Falque, Esca, Perrier, etc., qui étaient les propriétaires de ces terrains avant qu'on ne perce la rue en deux temps, mais c'est compliqué à raconter. Mais en gros, pour aller vite, ils acceptaient de donner un morceau de leur terrain à la ville, c'est-à-dire dans l'alignement de la rue, puis en échange, la ville faisait les égouts, etc., et eux, ils construisaient des immeubles, ils lotissaient, et c'était des opérations très très rentables. Et les acquéreurs et les occupants de ces immeubles, c'était la grande bourgeoisie marseillaise. On retrouve alors Benza, qui était industriel de chaussures. On retrouve beaucoup de gens de travaux publics, les Guiramans qui ont construit les égouts de Marseille se retrouvent là-bas. Donc c'est les, C'est une opération d'urbanisme et en même temps, c'est les acteurs de l'urbanisme, propriétaires, architectes, promoteurs, entrepreneurs de construction qui se retrouvent à habiter là-bas. Et ça, ça se passe sans que Paris mette son nez dedans, sans qu'il y ait, je sais pas, des opérations de concertation difficiles, des déplacements de population, ça se passe complètement tranquillement. Ça se passe loin des transports en commun aussi, à l'extrémité de la ville. C'est le moment où la rue Paradis commence à redescendre vers le sud, et donc on est abrité du Mistral, et puis abrité des miasmes de la ville-centre. Et une fois que vous êtes là-bas à admirer cette plus belle rue de Marseille, n'hésitez pas à virer un petit peu vers l'ouest. Prenez le boulevard Rivet, la rue Frédéric Mistral, la rue Émile Sicard. Et là, vous vous retrouvez dans ce qui s'appelle Campagne Rivet, qui est le plus beau quartier de Marseille, qui est une espèce de cité, jardin, luxueuse et aristocratique. Vous avez alors le consulat de Tunisie, le consulat de Russie, la clinique dont j'ai oublié le nom, commandant Roland, qui sont des espèces de petits châteaux avec jardin, piscine, bien vigilantés, grilles, digicode, caméras de surveillance. Et une ambiance incroyablement calme, on se croirait dans un quartier diplomatique de l'AE. Donc voici l'idée week-end du jour, aller passer une heure ou deux dans les hauts de Paradis.
Ou aller à Saint-André pour la clôture de Small is Beautiful, aussi une autre idée week-end où ça se clôturera en musique avec le concert de public de Pierre Sauvageau et le Turbo Clap Station de Mazalda, ça devrait bien dépoter. Alors Small is Beautiful, cette cinquième édition est finalement assez peu européenne. Il y a ce projet là avec la Horde et Napéron, cette collaboration franco-slovaque, mais pas grand chose d'autre. Le Tony Clifton Circus, si, qui sont en Italie mais qui travaillent beaucoup en France, donc une différence avec les précédentes éditions. Et il y a le film In Situ quand même, qui est un film qui a été projeté à la Maison de la Région là, sur la création artistique en espace public en Europe. Ariane Biou, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce film?
Oui, donc là à Marseille, il a été présenté sous sa forme linéaire. C'est un film qui a été réalisé par Antoine Viviani, qui s'appelle « In situ, les artistes dans la ville », et qui nous a permis d'avoir un partenariat avec eux, puisque ce n'est pas un reportage sur le réseau In situ, mais on se retrouve exactement dans les mêmes lignes, on suit les artistes qui ont des créations similaires. C'est un travail qui a été réalisé aussi grâce, surtout, au support d'Arte Web TV. Donc c'est un film linéaire au départ, mais surtout, c'est devenu aussi un film interactif, c'est-à-dire que sur Internet et maintenant via une application smartphone, on peut voir dans son intégralité, interagir, c'est-à-dire avoir plus d'informations sur chaque scène, et sur les artistes donc, qui composent chaque scène, et par la suite, intervenir aussi sur le blog et sur une carte où les professionnels, les spécialistes, mais aussi le public en général, peut intervenir et porter sa propre contribution à la carte et au blog, aux écrits et participer. Voilà, ce qui est en train de devenir une plateforme sur laquelle nous, on intervient et on met du contenu, effectivement, de nos projets, de tout ce qu'on va créer prochainement, et qui peut aussi servir de base, on l'espère, dans le futur, pour pouvoir mieux retransmettre nos projets et l'utiliser vraiment comme un moyen de communication.
Quels sont les projets que le réseau In situ porte là pour les mois à venir?
Alors, In situ a porté de nombreux projets depuis 2003, donc on continue à les suivre, les artistes qu'on a déjà suivis depuis le début. Là, le projet a commencé au 1er mai, donc on en est au tout début de nouvelles créations. Pour l'instant, on est en diffusion des précédents. Et un premier projet vient d'être soutenu et sera présenté à Courtrai le 30 novembre. Il s'agit de la compagnie Berlin. C'est justement le projet qui est basé sur une histoire de frontières dont parlait Hugo Bergs précédemment. Justement parce que en Belgique, c'est peut-être un problème sensible, mais ça l'est effectivement. On soutient ce projet parce que c'est le cas un peu de partout. Les frontières, tout à l'heure on parlait aussi de l'exil, ça rejoint beaucoup aussi la mobilité des artistes. Qui, eux, effectivement, n'ont pas de frontières, jamais, heureusement. Et donc, Institut soutient la création, mais soutient aussi beaucoup la mobilité.
Oui, puis il y a une certaine logique à ce que des artistes qui interviennent dans l'espace public se posent ce genre de questions sur les frontières. Tout ça. Pedro Garcia, qu'est-ce qui se passe en ce moment à Chalon, puisqu'il n'y a pas le festival ?
Alors, le festival, c'est 5 jours dans l'année, même si ça fait un peu plus de 2000 représentations pendant 5 jours. Et tout au long de l'année, ensuite, c'est le Centre National des Arts de la Rue qui prend le relais. Donc le Centre National des Arts de la Rue, grosso modo, c'est une vingtaine de compagnies qui viennent en résidence, une semaine ou quatre semaines, ça dépend des compagnies, la plupart deux semaines, quelque chose comme ça. Des sorties de chantier public quand les compagnies ont envie de faire des sorties, rencontrer du public, questionner, passer un moment à la fin d'une résidence. Et puis ensuite, c'est également trois quartiers de lune qui se font donc autour du centre-ville. Il y en a un en automne qui va commencer la semaine prochaine, donc c'est un grand week-end avec une dizaine de compagnies. Un autre en hiver, au mois de décembre, un autre au printemps, en mai, puis un autre qu'on connaît en été pour le festival. Donc le Centre national des arts de la rue, on va dire, c'est ça. C'est 20 compagnies, 3 quartiers de lune et un festival, c'est ce qui nous occupe.
Hugo Bergs, le festival à Nierpelt, c'est pour bientôt
Oui, c'est pour dans deux semaines, dans les fériés de Toussaint. On a un festival de 4 jours de cirque dans notre petit village à Nierpelt. Mais c'est un festival international avec des circassiens surtout de France, mais aussi d'Espagne, je crois, du pays scandinavique et de Belgique, bien sûr.
Christian Potiron, vous, qu'est-ce qui vous attend après Marseille
On vient juste d'ouvrir un nouveau lieu dans un des quartiers de la ville, parce que je suis aussi en charge de la programmation d'un réseau de centres culturels dans les différents quartiers périphériques de la ville. Et là, on vient d'en ouvrir un, notamment avec une performance d'un groupe de théâtre qui a soutenu ou qui avait participé à une des rencontres d'Institut l'année dernière. Théâtre Potogne, Divadlo Potogne en slovaque, et qui crée justement, qui a créé un spectacle, disons, communautaire et qui implique les habitants directement dans le spectacle, avec des parties du spectacle sur les balcons, avec des jeux dans le jardin d'enfants qui est juste en bas, une partie de la pièce qui a lieu dans le jardin d'enfants qui est juste en bas de la tour, et l'implication des habitants qui allument leur lumière, qui les éteignent, des spectacles, des cours de présentation ou intervention de certains habitants sur leur balcon qui font partie du spectacle ou qui l'interrompent d'ailleurs, et comme ça ils se renvoient la balle entre les acteurs qui en bas jouent le spectacle et les habitants qui à leur balcon se mettent à crier quelque chose ou interviennent tout simplement.
Merci beaucoup Ariane Billon, Pedro Garcia, Hugo Bergs et Christian Potiron d'avoir passé ce moment avec nous. On arrive au terme de cette émission. On va écouter avant de se quitter les beaux parleurs. Les beaux parleurs qui tous les soirs nous ont proposé un proverbe à titre, un extrait du grand fictionnaire de Jean-Georges Tartare et l'agenda du lendemain.
Proverbe à titre.
Des beaux parleurs.
Aïe.
Titre. Step by step. Laurent, une idée?
Mieux vaut un step by step qu'une toundra by toundra.
Bravo.
Le mot du fictionnaire.
des beaux parleurs.
Non ! De Jean-Georges Tartare !
Triacaïde décaphobie. Peur panique du 13. Tu me passes la clé de 13, s'il te plaît ? Non, ça c'est la 14. Non, ça c'est la pince multiprise. Attends, je vais la chercher moi-même, sinon j'y suis encore demain. Quoi, demain ? Ah, c'est le 13, excuse-moi. C'est fou comme t'es triacadécaphobe.
Oh ! L'agenda du jour ! Erra, c'est du lendemain !
Dimanche 16 octobre de 17h à 20h à Saint-André, Marseille, bouquet final pour orchestre et haut-parleurs. Venez de concert en public pour une fête trans exotique. Partition disponible sur www.lieupublic.com. Navette gratuite depuis le club Pernod à 16h sur le Vieux-Port, à Marseille bien sûr.
Les beaux parleurs.
C'est avec cette émission que se termine cette dizaine de jours spéciaux sur la grenouille consacrés à Small is Beautiful et plus largement à l'art dans la ville à travers également deux rendez-vous quotidiens sur notre antenne à 9h30 et 11h autour d'Evento à Bordeaux, Inventaire des Inventés et l'éventail d'Evento, deux rendez-vous quotidiens qui se poursuivent jusqu'au 18 octobre. Toutes les infos des sons et des émissions sont en écoute à la carte et en podcast sur radiogrenouille.com. C'était Sébastien Gélier à la technique. Merci à lui, bonne soirée et bon week-end à toutes et à tous.